Bien, je remercie Xavier pour cette introduction bienveillante. Et comme il me l'avait demandé, je vais présenter très rapidement Chesterton et ensuite je vous introduirai dans le cœur de ma conférence, qui est une réflexion sur une notion qu'on trouve dans un texte précis de Chesterton, la conclusion de son ouvrage Orthodoxie. Cette notion, c'est la notion de secrète hilarité du Christ. Donc ma conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence sur Chesterton et la secrète hilarité du Christ. Donc rapidement, je vais reprendre ce que Xavier Dufour a essayé de m'empêcher de dire en l'anticipant. Chesterton est donc un écrivain anglais né en 1874, mort en 1936, ce qui veut dire qu'il a 26 ans en 1900, ce qui veut dire également qu'il est contemporain de cette Angleterre post-victorienne, celle d'Édouard XVI, celle de George V, cette Angleterre qui est encore un vaste empire, cette Angleterre qui, en quelque sorte, commence à tourner en dérision ce que de nos jours on appelle la société victorienne, c'est-à-dire que c'est la société des grands ironistes que sont des auteurs comme Oscar Wilde, George Bernard Shaw, ou des esprits avancés comme H.G. Wells, qui croient au progrès, à l'avenir, à la science, et pour H.G. Wells et Bernard Shaw, mais qui ne croient pas du tout aux valeurs victoriennes, comme Oscar Wilde, bien sûr, et qui les tournent en dérision. Et Chesterton est donc le contemporain d'un moment où la conscience anglaise éclairée prend ses distances, au fond, avec les valeurs chrétiennes traditionnelles. J'ai fait lire un jour à un de mes frères hérétiques de Chesterton, il a dit « c'est incroyable, Chesterton réfute tous les préjugés de notre temps ». Alors il m'a dit ça dans les années 1990, et les préjugés de la France des années 1990, les préjugés des Français moyens des années 1990, correspondent très bien aux idées avancées des intellectuels britanniques des années 1900. C'est-à-dire l'idée que le christianisme n'est pas crédible, qu'il faut croire au progrès, qu'on est appelé à un monde cosmopolite dépassant toutes les différences culturelles particulières, etc. Chesterton est donc contemporain d'un moment historique important dans l'histoire des idées européennes, et la pensée qu'il va développer nous concerne beaucoup plus directement qu'on ne pourrait le croire si on n'a pas conscience des particularités de cette société britannique des années 1900. Or, Chesterton est né à Londres, donc en 1874. Il est originaire des classes moyennes. Son père est agent immobilier, gestionnaire d'immeubles. Sa famille n'est pas spécialement dévote, anglicane d'ailleurs, et c'est une famille qui se veut respectable et qui a des idées de gauche, c'est-à-dire la gauche de l'époque, ce sont les Whigs, des libéraux, mais pas des libéraux au sens moderne du terme. Être libéral, cela veut dire se méfier des conservateurs, être opposé aux conservateurs, et se poser dans le camp du progrès par opposition à la tradition des Tories, donc une famille progressiste. Et après des études relativement superficielles et littéraires, il devient écrivain journaliste, critique au Daily News, qui est un journal fondé par Charles Dickens, donc bien avant la naissance de Chesterton, puisque Charles Dickens est mort dans les années 1870. C'est un journal d'orientation libérale modérée. Libérale, je vous le rappelle, veut dire de gauche, pas la gauche ouvrière, hein, pas la gauche socialiste, mais cette gauche des classes moyennes contre les classes dominantes. Et Chesterton est donc un homme de gauche de la Belle Époque, un journaliste de gauche dans un journal de gauche. Et par la suite, d'ailleurs, il ne reniera pas sa méfiance à l'égard des classes aristocratiques, à l'égard même de l'impérialisme anglais. Il a toujours été hostile à l'impérialisme, alors qu'il est contemporain de, je dirais, du plus grand empire de tous les temps, l'empire de l'Angleterre victorienne. Lui-même est hostile à l'impérialisme par principe. Il croit à l'égalité de tous les hommes, égalité au niveau de la nation, égalité au niveau international. Donc, il n'est pas du tout, vous voyez, impérialiste. Par la suite, il se convertira au catholicisme au terme d'un itinéraire religieux qui commence par un rapprochement avec ce qu'il va appeler l'orthodoxie chrétienne. L'orthodoxie chrétienne, c'est un ensemble d'idées chrétiennes fondamentales, plutôt conservatrices, qui ne se réclament pas spécialement de l'étiquette catholique, mais qui regardent avec sympathie le catholicisme. En gros, c'est ce que l'on appellerait de nos jours un anglo-catholique, c'est-à-dire un anglican, mais dont les idées religieuses le rapprochent du catholicisme. Et finalement, en 1922 seulement, il se convertit au catholicisme. Et plus tard, sa femme, je le précise, puisque beaucoup colportent une idée qui est fausse, qui était dite par certains journaux français, que sa femme aurait été catholique. Non, sa femme s'est convertie après lui au catholicisme. Il est donc rapproché progressivement du catholicisme. Il s'est converti au catholicisme en 1922. Et c'est vrai qu'il avait un ami catholique important, Hilaire Belloc, qui est beaucoup moins connu que lui en France, c'est dire s'il est peu connu, qui lui était catholique. Alors Hilaire Belloc, lui, a la bizarrerie d'être un écrivain français d'expression anglaise. Puisqu'il était motivé. Bon, peu importe, j'en viens à mon sujet. L'œuvre de Chesterton est donc l'œuvre de cet écrivain journaliste qui va écrire plusieurs sortes d'écrits, des romans policiers, donc un écrivain qui se veut écrivain populaire, qui écrit pour le petit peuple. Cela va avec ses idéaux démocratiques et égalitaires. C'est lui qui va faire de Father Brown un prêtre catholique, un détective. C'est d'autant plus remarquable qu'à l'époque où il choisit Father Brown comme détective, il n'est pas encore catholique. Il s'inspire simplement d'un prêtre catholique qu'il connaît, qui lui servira de modèle. Par ailleurs, il va développer tout un ensemble de polémiques qui sont liées au départ à son travail de critique littéraire. En 1905, il publie « Hérétique », qui est un recueil d'articles publié précédemment dans le Daily News, d'articles qui sont conçus de la manière suivante. Chesterton écrit sur un écrivain contemporain, par exemple Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, et il s'efforce de dégager et de critiquer sa philosophie implicite. Cet auteur a une certaine vision du monde. Par exemple, Chesterton montre avec beaucoup de subtilité, de finesse et de malice que Rudyard Kipling n'est pas un patriote. Rudyard Kipling n'est pas un patriote puisque Rudyard Kipling a dit qu'il aimait l'Angleterre parce que l'Angleterre était la nation la plus puissante du monde, la plus grande nation du monde. Et Chesterton dit qu'un patriote ne dirait jamais ça parce qu'un patriote, il aime sa patrie, surtout quand on est en difficulté et en danger. Et donc si on aime sa patrie seulement parce qu'elle est la plus puissante, c'est qu'on n'aime pas réellement sa patrie. Ce qui est extrêmement bien démontré. Voilà. C'est un peu comme les supporters de foot. Vous reconnaissez les vrais supporters de l'Olympique Lyonnais à ce qu'ils supportent l'Olympique Lyonnais même quand ils perdent. Et donc, quand l'Olympique Lyonnais affronte le PSG, ils vont quand même soutenir l'Olympique Lyonnais. Et parfois, en plus, l'Olympique Lyonnais gagne. Et ils ne se vexent même pas, alors que ça les aurait beaucoup vexés il y a 10 ans, quand on dit que c'est la victoire du petit contre le plus fort. Ce qu'on dit lourdement les Parisiens. Bon, je reviens à Chesterton, qui aimait beaucoup que le petit vainque le fort. Chesterton développe donc ses ouvrages de critique littéraire, dégage la philosophie, et un jour il va développer sa propre philosophie dans un ouvrage de 1908, Orthodoxie, qui répond à un défi. Le défi est le suivant: vous avez écrit sur la philosophie des écrivains qui sont vos contemporains, pour critiquer cette philosophie. Maintenant, exposez-nous la vôtre. Et dans Orthodoxie, Chesterton va exposer sa propre philosophie, va dire ma philosophie personnelle, voyez-vous, eh bien, c'est au fond le christianisme orthodoxe, pas au sens de l'orthodoxie russe, grecque, etc. C'est ce qu'il appelle le christianisme orthodoxe, c'est-à-dire le credo des apôtres. Telle est ma philosophie. Ma philosophie, c'est le christianisme. Et D'ailleurs, il expose avec humour le fait que, pendant longtemps, il avait cherché à avoir sa propre pensée et qu'il est comparable à un yachtman qui aurait fait une erreur de navigation et qui, après avoir fait le tour du monde, croyant découvrir une terre nouvelle, débarquerait en Angleterre. Je suis le yachtman qui arrive et plante fièrement son drapeau sur la plage de Brighton en croyant découvrir un continent nouveau. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Je croyais élaborer ma propre philosophie et finalement, je vais dire que ma philosophie, ce que je crois vraiment, c'est ce qu'enseigne le christianisme depuis plus de 1800 ans. Donc on a deux pôles qui vont se dégager dans l'œuvre de Chesterton, hein, qui s'est surtout développé postérieurement. C'est d'une part donc les romans policiers d'abord, mais aussi des romans plus fantaisistes, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et d'autre part des écrits apologétiques, sachant qu'il y a aussi quelques œuvres de Chesterton qui sont plus ou moins des contes à caractère apologétique. Je vais m'intéresser aujourd'hui plus spécialement donc aux écrits polémiques et apologétiques de Chesterton. Écrits polémiques et apologétiques qu'on trouve d'abord dans Hérétique, puis Orthodoxie, puis des ouvrages comme L'homme éternel ou La chose, The Thing. Bien. Dans ses écrits, Chesterton a laissé créer la réputation d'être le prince du paradoxe. Le prince du paradoxe. Et c'est tout à fait vrai. Chesterton a soutenu beaucoup de choses paradoxales, mais le style paradoxal de Chesterton a une particularité, c'est que Chesterton est aussi un apologiste du bon sens, et je dirais même du bon sens populaire. Or, il y a quelque chose de paradoxal à soutenir par des paradoxes que l'on défend le bon sens populaire, puisque par définition, le paradoxe, c'est ce qui est contraire à la doxa, qui est justement l'opinion commune. Donc le paradoxe de Chesterton est toujours un double paradoxe. Il est paradoxal en ce qui n'est pas paradoxal. Voilà le paradoxe. Nous y reviendrons. Disons qu'en lisant Chesterton, on a parfois des satisfactions assez similaires à celles qu'on peut avoir en écoutant du Mozart. Quand vous écoutez du Mozart, quand vous écoutez la première fois, c'est inattendu, mais quand vous avez fini de lire d'entendre la proposition de Mozart, elle vous paraît évidente. Donc Mozart, c'est inattendu, mais rétrospectivement, au fond, c'était évident. Bah, Chesterton, ça va être la même chose. Chesterton vous soutient un paradoxe, mais l'achèvement du paradoxe, c'est qu'au fond, ce qu'il dit est de parfait bon sens. J'aime prendre pour exemple ce que Chesterton dit de la famille dans Hérétique, dans le chapitre d'Hérétique consacré à deux certains écrivains modernes et de l'institution de la famille, qui est un de mes textes préférés. Quelques-uns des sages de notre décadence ont porté une sérieuse atteinte à la famille, ils l'ont attaqué à tort et ses défenseurs l'ont défendu à contresens. Donc, les contemporains qui ont attaqué la famille l'ont attaqué à tort et les défenseurs de la famille l'ont défendu à contresens. On la défend communément en disant qu'elle représente, au milieu des luttes et des hasards de la vie, la paix, l'agrément et l'union. Mais il est une autre manière de défendre la famille, il est une autre manière de la défendre, possible et pour moi évidente, c'est de dire que la famille n'est ni la paix, ni l'agrément, ni l'union. Paradoxe. Et si vous lisez le texte jusqu'au bout, eh oui, ce qui fait la grandeur de la famille, c'est qu'on est obligé de vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis. Il n'y a que le conjoint qu'on peut avoir choisi, mais ses parents ne les a pas choisis, ses frères et sœurs ne les a pas choisis, et on va devoir les supporter toute sa vie. Et donc ce que la famille nous apprend, c'est à savoir vivre avec des gens que nous n'aimons pas forcément spontanément. Et c'est en cela que c'est une aventure très profonde qui se vit en famille. Parce qu'en dehors de la famille, les gens avec qui l'on va vivre sont généralement des gens que l'on choisit. Et du coup, eh bien, on n'est pas obligé de se confronter à toute cette part de l'humain qui ne nous plaît pas spontanément. Donc la grande force de la famille, c'est qu'elle oblige à se confronter à l'autre dans sa part d'altérité qui nous déplaît. Et Chesterton, avec son sens poétique que nous allons découvrir, dit que il compare l'aventure de la famille à cette situation où un homme, un peu comme le Père Noël, se trouverait au-dessus d'une forêt de cheminées, hein, une ville, vous avez une forêt de cheminées, et puis devrait en choisir une au hasard, descendre par la cheminée et s'accommoder avec les gens qu'il trouverait là. Et conclut Chesterton, c'est là ce que nous avons tous fait le jour de notre naissance. Nous avons été jetés dans une famille, voilà. Et depuis notre naissance, nous sommes un peu comme cet homme qui serait arrivé par la cheminée, dans une maison choisie au hasard, et qui devrait trouver un modus vivendi avec les gens qui se trouvent habités là. Voilà le paradoxe de Chesterton, mais c'est un paradoxe qui, rétrospectivement, paraît du plus grand bon sens. La famille, c'est ce qui nous a appris, justement, à faire de multiples concessions à d'autres, à ne pas attendre que l'autre soit tel que nous voulions qu'il soit, mais à l'accueillir tel qu'il est, etc., etc. Chesterton, prince du paradoxe, est défenseur du bon sens. Ultime paradoxe. Chesterton est également le polémiste joyeux. C'est un polémiste joyeux. Polémiste, mais joyeux. Même ses adversaires le reconnaissent. Chesterton a été un ami apprécié de ses adversaires. Il avait particulièrement une relation très forte avec George Bernard Shaw, alors que presque tout les opposait sur le plan intellectuel. D'ailleurs, Chesterton était grand et gros. Chesterton faisait 1m93. Alors, si vous voulez savoir ce que représente 1m93, c'est ça. Voilà. Puisque j'ai l'honneur, alors là, c'est le point de rapprochement le plus pertinent entre ma personnalité et celle de Chesterton, j'ai l'honneur de faire exactement la même taille que Chesterton. Honneur partagé par John Wayne et le général de Gaulle. Voilà. Bien. Alors, Chesterton faisait 1m93 et 130 kilos. 130 kilos. Alors, pour les 130 kilos, je vais faire des efforts et vous repasserez dans 15 ans. Voilà. Bon. Quoique j'en sois pas si loin. Bon, alors, donc Chesterton était grand et George Bernard Shaw, c'était l'inverse. Ça avait un petit côté Astérix et Obélix. Alors, il y a une plaisanterie qui circule, qui est probablement complètement apocryphe, où Chesterton aurait dit à Shaw, quand des étrangers vous voient, ils doivent croire que les Anglais meurent de faim. Et Bernard Shaw lui a répondu, et quand ils vous voient, ils doivent savoir pourquoi. Voilà. Bon. Bien. Bon. Alors, Chesterton, c'est donc un polémiste joyeux. Voilà. Et son humour est toujours bienveillant. Alors, bien sûr, il y a des pics, hein, mais on sent toujours chez lui, et c'est vraiment lié à sa philosophie, nous allons le voir, un respect profond pour la personne dont il parle. Même quand il l'éreinte. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a une très profonde bienveillance dans l'humour de Chesterton. Et ceci m'amène à mon sujet du jour, la secrète hilarité du Christ. Alors, Orthodoxie, donc, c'est l'ouvrage que je vous ai cité, 1908, où Chesterton, pour la première fois, en quelque sorte, va exposer de manière assez unifiée sa vision du monde, et qui est une vision chrétienne. Et ce livre se conclut par la page suivante, le paragraphe suivant que je vais vous lire. C'est une réflexion sur la joie. Sur la joie et sur la joie, la gaieté et le mirth. Mirth, ce qui correspond à l'adjectif merry, qui est cet état d'esprit qui, en quelque sorte, nous incline à rire. Voilà. Petite publicité du païen, la joie est le secret gigantesque du chrétien. Tandis que je m'apprête à fermer ce livre chaotique, alors là, c'est une petite coquetterie, c'est pas du tout chaotique, Orthodoxie, j'ouvre de nouveau l'étrange petit livre dont le christianisme tout entier est sorti, l'Évangile, et voici que m'obsède une image comme pour une confirmation. La figure immense qui remplit les évangiles domine là encore, comme partout ailleurs, tous les penseurs qui se sont crus grands. Son émotion était naturelle, presque désinvolte. Les stoïciens, anciens et modernes, mettaient leur vanité à cacher leurs larmes. Il n'a jamais caché ses larmes. Il les montrait franchement, sur son visage, ouvert à toute vision quotidienne, fût-ce la vision lointaine de sa ville natale. Pourtant, il cachait quelque chose. Les surhommes solennels, les diplomates impérieux, mettent leur vanité à réfréner leur colère. Il n'a jamais réfréné sa colère. Il jetait les bancs au bas des marches du temple. Il demandait aux hommes comment ils entendaient échapper à la damnation de l'enfer. Pourtant, il réfrénait quelque chose. Je le dis avec respect. Il y avait en cette personnalité incomparable un rien de timidité, appelons-la ainsi. Il y a quelque chose qu'il a caché à tous les hommes quand il est monté sur la montagne pour prier. Il y a quelque chose qu'il couvrit toujours d'un silence abru ou d'un isolement impétueux. Il y avait une chose trop grande pour que Dieu pût nous la montrer quand il marchait sur notre terre. J'ai parfois imaginé que c'était son rire. Son rire, pas laughter, hein, pas le rire au sens physiologique, c'est le mirth, c'est-à-dire cette propension à rire, cette gaieté qui pousse à rire, hein, cet état d'esprit qui donne envie de rire, que le Christ aurait caché. Et cette page de Chesterton peut assez légitimement nous étonner. Elle peut nous étonner puisque la question du rire du Christ est une question qui a occupé des théologiens médiévaux. Elle a occupé des théologiens médiévaux qui ont remarqué très tôt que aucun texte de l'Évangile ne mentionne que le Christ aurait ri. Et par ailleurs, certains théologiens médiévaux ont soutenu, pas tous, que le Christ n'aurait pas pu rire, ce qui peut nous surprendre. Et je vais essayer de vous montrer que cette hypothèse est très respectable. Et du coup, parce que le fait que le Christ ait pu rire est problématique, on pourrait se demander si ce que dit ici Chesterton est, comment dire, le reflet simplement de sa personnalité humoriste et bonhomme. Il va projeter sur le Christ qu'il aurait envie d'y trouver. Peut-être au risque de dire quelque chose de discutable intellectuellement. On pourrait aussi penser que c'est un particularisme anglais. Au fond, l'Angleterre, aimons les clichés, c'est le pays des excentriques. Je crois que Chesterton aurait été d'accord avec cette idée. C'est le pays des excentriques et les Anglais aiment bien l'humour, c'est le pays de l'humour, l'Angleterre. Et donc Chesterton, en anglais, aurait anglicisé le Christ. Mais pour ma part, je pense que la vision que Chesterton lui propose du Christ est appelée, enfin, peut nous éclairer en profondeur sur certains aspects de la foi chrétienne qui sont méconnus. Donc je vais soutenir que le Christ pouvait rire, ce qui ne va pas de soi, et je vais essayer de montrer avec Chesterton tout ce que cela peut impliquer. Voilà, je suis heureux de voir qu'il y a des dominicains et j'espère que ils seront plus ouverts que les dominicains mentionnés par Umberto Eco dans Le Nom de la Rose. Voilà. Alors, mon exposé tiendra en trois points. Premier point, une philosophie du rire et de l'humour. Il y a chez Chesterton une philosophie du rire et de l'humour. Chesterton, en philosophie, était un autodidacte, mais il avait une vision du monde, et même de l'au-delà du monde, très précise, très construite. Et dans sa vision du monde, il y a une réflexion sur le rire et l'humour. Ceci nous conduira ensuite à une éthique de l'humilité et une esthétique de l'émerveillement. Donc, ceci devrait nous conduire dans la deuxième partie à une éthique de l'humilité et une esthétique de l'émerveillement. Et tout ceci nous conduira en troisième partie à une métaphysique elfique du buisson ardent que je vous garde pour la fin. Alors pourquoi est-ce que la conclusion d'orthodoxie peut étonner ou choquer ? Parce que pour beaucoup de penseurs, et pas seulement chrétiens, il y a un fond de malveillance à l'arrière-plan de tout rire. Je vais citer ici, me référer à deux auteurs classiques sur la question du rire, Bergson et Freud. Chez Bergson, le rire, donc tout le monde connaît plus ou moins la définition du comique chez Bergson, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Mais le rire chez Bergson est vu comme une sanction. Le rire est sanction. Rire, c'est punir. C'est punir quoi ? Une déviance, une inadaptation. Lorsqu'un L'être humain manque de souplesse, n'est pas adapté à la situation, se comporte comme une chose et pas comme un être humain attentif à la situation dans sa complexité, lorsqu'il se conduit un peu sottement, un peu bêtement, un peu maladroitement, lorsqu'il agit de manière mécanique au lieu d'agir de manière vivante et adaptée à la situation, eh bien, cet humain prêt à rire, le rire étant ici une sanction de la société qui punit l'inadapté pour son manque d'adaptation. Et donc, derrière le rire, il y a une volonté de punir, mais punir au nom de quoi ? Punir au nom de la cohésion du groupe qui exige que les gens s'adaptent au groupe au détriment du respect de l'individu dans sa singularité. Et c'est pour ça que le rire s'accompagne d'une absence de compassion. Vous voyez quelqu'un qui marche et qui glisse sur une peau de banane et se retrouve par terre. Voilà. Vous allez rire de sa maladresse, surtout si c'est une personne solennelle qui est en train de faire une conférence. Enfin, généralement, on ne se promène pas et puis il n'y a pas beaucoup de peau de banane. Mais bon, vous allez quand même rire du lapsus, hein, un moment un peu ridicule. Et plus le conférencier sera solennel et prétentieux, plus son lapsus prêtera à rire. Et le rire sera une punition de ce manque d'adaptation. Et donc, c'est la conclusion du rire de Bergson. Il y a quelque chose d'un peu cruel dans tout rire. Il y a un fond de cruauté qui se dévoile dans le rire. Et même si nous prenons de la joie à rire, eh bien, dit Bergson, c'est un peu comme l'écume au bord de la plage qui brille sur les vagues. Mais quand nous goûtons cette écume, nous sentons un goût salé et amer. Bien, de même pour le rire. Derrière le rire, il y a quelque chose de cruel qui, au fond, doit être dévoilé et pris en considération. Vous avez une autre théorie du rire, alors, que je connais moins bien, c'est celle de Freud. Puis elle est assez complexe, parce qu'en fait, chez Freud, ce n'est pas exactement une théorie du rire, c'est plutôt une théorie du mot d'esprit. Et vous avez différentes théories sur le communique, alors pas forcément de Freud, mais d'auteurs freudiens. Mais disons que dans la tradition psychanalytique, il y a l'idée que le rire sera une décharge, en quelque sorte, d'énergie soulageant le sujet de certains conflits psychiques, puisque le sujet est partagé entre des exigences de son surmoi et des pulsions contre lesquelles il doit lutter. Et le rire, c'est l'autorisation de défouler sa pulsion lorsque, par exemple, un mot d'esprit fait que ce qui était refoulé devient tolérable. Alors, un exemple de mot d'esprit célèbre de Freud, et très bien trouvé, c'est un journaliste qui est invité à une grande réception organisée par deux hommes d'affaires, unis dans leurs intérêts, qui ont fait faire leur portrait en pied. Donc les deux hommes d'affaires organisent une petite fête. Les deux portraits sont exposés côte à côte le long d'un mur, bien sûr, donc réception, discours, etc. Et au cours de la réception, le critique qui connaît ces hommes d'affaires, qui sait que ce sont des hommes d'affaires qui ont réputation d'être extrêmement malhonnêtes, que toute cette cérémonie est destinée à, comment dire, leur donner une certaine honorabilité, le journaliste pointe l'espace situé entre les deux hommes d'affaires. Pointe l'espace entre les deux. Il faut représenter la chose. D'accord ? Pointe l'espace et dit « Où est le Christ ?» Sous-entendu, nous avons là les deux larrons. Voilà. Et cela prête à sourire. Pourquoi ? Parce que là, le mot d'esprit est un détour pour donner libre cours à la pulsion refoulée, la pulsion qu'on s'interdit de faire apparaître, qui est cette volonté de punir, de sanctionner des êtres que l'on méprise, mais auxquels on est obligé de faire des courbettes. Et donc là encore, le rire, ici, est en rapport avec des aspects sombres de l'humain, un fond d'angoisse, des conflits internes, et là encore, la possibilité de rendre acceptables des pulsions qui normalement doivent être refoulées parce que justement elles sont honteuses. Et voilà pourquoi, même si ces théories du rire sont du XXe siècle, il y a longtemps eu un soupçon à l'égard du rire. Un soupçon à l'égard du rire, le rire étant, alors pour le coup chez des auteurs comme Descartes ou Hobbes, assimilé toujours à quelque chose de l'ordre de la moquerie, exprimant un sentiment de supériorité. Rire, c'est rire d'eux. Et rire d'eux, c'est sentir supérieur à ce dont on rit. Donc il pourrait y avoir de la violence dans le rire. Et voilà en quoi la remarque de Chesterton, vous voyez, sur ce Christ qui aurait pu avoir une certaine proportion à rire, ne va pas du tout de soi. Alors pas du tout. Alors pour comprendre la position de Chesterton, alors il y a une troisième théorie du rire, qui à mon avis est la meilleure, qui est celle des éthologues. Ceux qui ont particulièrement étudié les grands primates, les grands singes, les chimpanzés, etc. On a longtemps cru que le rire était le propre de l'homme, mais en fait les chimpanzés rient aussi. Et je pense qu'on peut trouver une théorie plus exacte que celle de Bergson et Freud en allant voir du côté des primates. Mais avant d'en venir aux primates, on va rester sur Chesterton, puis je vous reparlerai des primates à ma conclusion si j'ai le temps. Voilà. Donc en attendant, laissons de côté, il y a d'autres manières de parler du rire. Chesterton lui-même a une théorie du rire et qui justement rend possible l'hypothèse d'un Christ riant. Cette théorie du rire, elle est tout d'abord à mettre en relation avec l'émerveillement et l'exultation. Dire pour le rire de Chesterton, c'est un rire qui est à rapprocher du rire de l'enfant qui exulte devant un spectacle qu'on lui propose, comme un spectacle de marionnettes. Il y a chez l'enfant quelque chose, le très petit enfant, quelque chose de l'ordre de l'enthousiasme. Et, pourrait-on penser, quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre d'une quelconque sanction, ni de l'ordre de la possibilité de laisser libre cours à des pulsions refoulées. Pour reprendre les textes que je vous ai livrés, si vous vous rendez page 3, j'ai relevé deux textes particulièrement éclairants sur l'humour, parmi d'autres. Commençons par le texte sur le rire, le deuxième. Il a été suggéré, par exemple, que toute forme de rire trouvait son origine dans une sorte de cruauté, dans une exultation face à la douleur ou à l'ignominie d'un ennemi. Mais il est très difficile, même pour les plus imaginatifs des psychologues, de croire que lorsqu'un bébé éclate de rire en voyant l'image de la vache sautant par-dessus la lune, il trouve réellement du plaisir dans l'éventualité que la vache se casse une patte en retombant sur le sol. Autrement dit, Bergson, Freud ont parlé de certains rires. Et Bergson et Freud ont commis l'erreur, au fond, de croire que tout rire a les caractéristiques du rire qu'ils ont étudié. Le rire privilégié par Bergson, c'est la dérision. C'est le rire de dérision. Le rire de dérision, il consiste surtout à rire d'un tiers et aux dépens d'un tiers. Il y a déjà un rire plus ironique, plus satirique, où l'on rit de celui à qui on s'adresse. C'est l'attitude de l'ironie. Dans l'ironie, vous riez de l'autre à qui vous vous adressez. Pas d'un tiers en son absence. Avec l'idée, qui peut être quand même un fond de bienveillance, que le rire ici châtie un dysfonctionnement, mais dans le respect de la personne à qui on s'adresse. Puis vous avez l'humour, qui consiste beaucoup plus essentiellement à rire de soi-même. À rire de soi-même, mais cet humour, il ne faut pas le confondre avec l'autodérision. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait vraiment humour, qu'il y ait un juste amour de soi. Et donc de même qu'il peut y avoir un humour où on sourit de soi, où on rit de soi, tout en se respectant soi-même, il pourrait y avoir un rire de l'autre qui respecte l'autre. Mais ça ne va pas de soi. Alors, quelle est la théorie du rire de Chesterton? Une autre philosophie dirait, et cette autre philosophie c'est la sienne par exemple, que le rire n'est pas le résultat d'une cruauté animale, mais d'une conscience purement humaine, du contraste entre l'immensité spirituelle de l'homme à l'intérieur et sa petitesse et ses limites à l'extérieur. Ce rire-là, c'est le constat d'un contraste entre l'immensité spirituelle de l'homme à l'intérieur de lui-même et sa petitesse, ses limites à l'extérieur. Il y a un contraste. mais un contraste qui affirme fondamentalement la grandeur de l'homme. L'homme passe l'homme. Car c'est en soi une plaisanterie qu'une maison puisse être plus grande dedans que dehors. Une plaisanterie qu'une maison puisse être plus grande que dehors. Selon pareille opinion, l'incompatibilité même entre le sens de la dignité humaine et la perpétuelle possibilité d'indignités accidentelles produit la plaisanterie primaire ou archétypale du vieux monsieur atterrissant brutalement sur la glace. Et plus le vieux monsieur est solennel, plus on rira. Nous ne rions pas de la sorte quand un arbre ou un rocher tombe. Parce que nous ignorons ce qu'il en est du sentiment d'amour-propre ou du sérieux qui leur est intérieur. Donc ici, il y a chez Chesterton la volonté de faire ressortir que sous le rire, il y a l'affirmation que l'homme vaut plus que ce dont on rit. Il vaut plus. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'après tout, est-ce que... Ici, il ne demeure pas quelque chose du rire sanction de Bergson. On sanctionnerait l'homme, ici, pour n'être pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Donc on rit ici de l'homme, mais de l'homme en tant qu'il est pécheur, en tant qu'il est indigne de la condition humaine. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin si l'on va vers la réflexion de Chesterton sur l'humour. Dans Le paradoxe ambulant, qui est un ouvrage que je n'ai pas cité, parce qu'il n'est pas de Chesterton. En fait, c'est... une anthologie de textes de Chesterton réunis par des éditeurs et qui reprend des articles publiés dans les journaux en leur temps, mais pas forcément publiés en livre par Chesterton. Il s'attache toutefois à l'humour, surtout lorsqu'il est comparé au mot esprit, wit, un genre de tradition ou d'atmosphère qui appartient aux vieux excentriques dont l'excentricité a toujours été délibérée et assez fréquemment aveugle. Donc ici, Chesterton veut faire la différence entre humour et esprit. L'esprit, c'est l'esprit voltairien, qui est très rationaliste. L'humour, ça serait plutôt l'humour anglais, particulièrement celui de Chesterton. La différence est subtile, mais l'un des éléments qui demeure dans ce mélange est un certain sentiment d'être un objet de risée tout en riant de soi-même. L'humour consiste au sentiment d'être un objet de risée tout en riant de soi-même. Elle implique l'aveu d'une faiblesse humaine. Alors que l'esprit est plutôt l'intelligence humaine déployant toute son énergie, quoique peut-être sur un sujet mineur. Vous voyez, Voltaire, hein, il ne rit pas de lui-même. Il utilise le rire qu'il va produire pour dénoncer les injustices, etc. Mais Voltaire ne se prend lui-même au sérieux dans son esprit. L'esprit est la raison sur son fauteuil de juge. Et si les offenseurs sont parfois légèrement touchés, le juge, lui, ne l'est jamais. L'humour, pour sa part, comporte toujours l'idée que l'humoriste en personne est en position de faiblesse et qu'il est pris dans les imbroglios et les contradictions de la vie des hommes. Il y a donc dans l'humour, ou du moins dans les origines de l'humour, quelque chose de cette idée de l'excentrique pris en flagrant délit d'excentricité et se payant d'effronterie. Alors quel rapport entre l'humour et l'excentricité ? Extrêmement simple, c'est étymologique. Initialement, le mot humoriste ne désignait pas l'homme qui faisait rire. Initialement, le mot humoriste, chez les contemporains de Shakespeare, désigne le caractère, le personnage de théâtre dont on rit. L'humoriste, c'est celui dont on rit. Et l'humoriste par excellence, dans le théâtre de Shakespeare, c'est Falstaff. Falstaff, c'est quelqu'un dont on rit. Mais, nous dit Chesterton, Falstaff, c'est pas seulement celui dont on rit, celui qui fait rire en même temps qu'on en rit. Et il fait rire, par exemple, en se moquant de lui-même. En surjouant, en étant truculent. Falstaff, c'est le, vous voyez, le vieux, un peu débauché, ventripotent, paillard, qui a tous les défauts de la terre, qui s'entoure de jeunes gens et qui dit nous autres, la jeunesse, voilà, en parlant de lui-même, alors que c'est un homme qui a plus de la soixantaine. Vous voyez, bon, mais donc il s'assimile à la jeunesse, alors qu'il ne l'est pas. Voilà. Et donc en sans cesse, Falstaff est dans cette truculence où il se moque de lui-même en même temps qu'il prête à rire par tous ses défauts. L'excentrique pris en flagrant d'excentricité, quelque chose de quelqu'un pris au dépourvu est devenu conscient du chaos régnant à l'intérieur. Donc l'esprit correspond à la divine vertu de justice, si tant est que l'homme puisse disposer d'une vertu à ce point dangereuse. L'humour correspond à l'humaine vertu d'humilité et n'en est que plus divin. car il a pour le moment davantage le sens du mystère. Ah, la paradoxe. Donc l'esprit, ça correspond à la vertu de justice, qui est divine. Premier point. Et l'humour correspond à la vertu d'humilité. On pourrait se penser qu'elle est humaine. Et c'est certain. Non, non, justement, elle n'en est que plus divin, la vertu d'humilité. Ah, donc la vertu d'humilité qui apparemment devrait être le propre de l'homme est plus divine au fond même que la vertu de justice qui pourtant est divine. Pourquoi ? Là, il y a un paradoxe. Quoi qu'il en soit, ce qui est important ici, c'est qu'on voit que Chesterton lie étroitement la possibilité d'avoir de l'humour avec l'humilité. L'humilité. Et ça va être la clé. C'est-à-dire que si le Christ est capable d'humour pour Chesterton, c'est parce que le Christ est doux et humble de cœur. C'est-à-dire que le Dieu qui rit et qui rirait de lui-même serait un Dieu capable de rire parce que c'est d'abord un Dieu humble. Ce qui ne va pas de soi, mais est un élément de la révélation chrétienne. C'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous qui pleurez sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. » Donc cette capacité à rire, si capacité à rire il y a, elle doit être liée à l'humilité. Ce qui me conduit à ma deuxième partie. Pour Chesterton, nous n'avons pas encore vu comment le rire et l'humour étaient possibles chez Dieu et le Christ, mais nous avons vu que s'il est possible, c'est uniquement dans la mesure où Dieu est capable lui-même d'humilité. Alors il faut aller voir ce qu'est l'humilité selon Chesterton. Eh bien, allons voir ce qu'est l'humilité. L'humilité ne doit pas être confondue avec toutes sortes de vertus humaines, plates, genre la modestie. Non, 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 vous n'y êtes pas. On peut être très humble et très magnanime. C'est-à-dire, par exemple, être parfaitement conscient de son excellence, qu'on fait de très belles choses, et on peut être très humble en même temps. Jean-Sébastien Bach était à la fois un homme très humble et tout à fait conscient d'être le meilleur musicien de son temps. Voilà. Bon. Donc, on n'est pas obligé d'être modeste pour être humble. Voilà. Enfin, je dirais pour la plupart, nous ne sommes pas concernés par ça. Mais bon. Bien. Donc, non. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et l'orgueil, ce n'est pas la vanité, qui est une chose assez sympathique pour Chesterton. Parce que le vaniteux, c'est quelqu'un qui quémande l'admiration des autres. Donc, il a besoin que les autres l'estiment pour s'estimer lui-même. L'orgueilleux se fiche royalement de l'admiration des autres, puisqu'il méprise tout le monde. Donc, le fait d'être admiré par les autres n'a aucun prix à ses yeux. Voilà. Bon. L'orgueil ou l'égotisme, dira Chesterton, c'est d'abord le fait de vouloir se suffire à soi-même. C'est vouloir n'appartenir qu'à soi. Et c'est donc ne vouloir dépendre que de soi. Et c'est peut-être la clé de la civilisation moderne, d'avoir dit aux hommes qu'il fallait qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes, qu'ils ne dépendent de rien, parce que l'orgueil, vous voyez, va de pair avec l'ingratitude. Un orgueil est incapable de voir de la reconnaissance pour personne, puisqu'il ne doit ce qu'il est qu'à lui-même. Par exemple, si vous prenez le voyage de Monsieur Perrichon de Jeune Labiche, Perrichon, au fond, est un homme orgueilleux. Parce que si quelqu'un lui sauve la vie, ça lui est pénible d'avoir pour lui de la reconnaissance. En revanche, il est très content de sauver la vie de quelqu'un d'autre, parce que là, c'est l'autre qui va avoir la reconnaissance pour lui. Donc Perrichon, d'après Labiche, pièce d'une grande profondeur, c'est l'homme qui ne veut pas être sauvé. Perrichon est un être authentiquement diabolique. C'est-à-dire que le bourgeois moyen du XIXe siècle est un être satanique. Et ça vous fait rire. Bien. Parce qu'il ne veut pas être sauvé. L'orgueilleux n'a besoin de personne, et pour ça, il n'a même pas besoin de Harley Davidson. Donc l'orgueilleux, voilà, il se suffit à lui-même. Et l'humble, au contraire, l'humble, il a conscience qu'il n'est rien par lui-même, et en fait, c'est ce qui va être la source de son bonheur. Oui, l'orgueilleux n'aime que lui-même, n'admire que lui-même, donc il n'admire rien. Non, il ne peut pas admirer. Dans l'admiration, il faut considérer que ce qu'on admire, en quelque façon, nous est supérieur quelque part. Regardez les amoureux. Les amoureux, ils admirent la personne dont ils sont amoureux. Ils se sentent inférieurs, au moins à certains points. Ce qui est beau entre deux amoureux, c'est que chaque amoureux se sent indigne de l'autre. Voilà. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'effectivement... Bon, non, mais... ce qui est beau dans le sentiment amoureux, c'est justement le sentiment d'indignité. Voilà, si vous sentez que vous méritez d'être aimé, c'est que visiblement vous êtes incapable d'aimer. Quand vous sentez que vous êtes indigne d'être aimé, là vous êtes capable d'aimer, et peut-être que quelqu'un qui partagera votre opinion, qui considérera que lui aussi est indigne d'être aimé, mais vous aimera quand même, pourra vous aimer. Mais bon. Mais donc l'amour ne peut exister que lorsqu'on est convaincu qu'il ne se mérite pas. Et donc l'humilité ici, chez Chesterton, ce sentiment d'indignité, c'est ce qui va être la source de tout bonheur, parce que c'est ce qui va nous rendre capables d'admirer et de nous émerveiller. Et c'est ce qui va nous rendre capables non seulement de nous émerveiller devant ce qui est, c'est ce qui va nous rendre capables également de connaître avec lucidité. Et oui, parce que l'orgueil va nous aveugler, au contraire. L'orgueil nous aveugle parce que l'orgueilleux ne s'intéresse à rien sinon à lui-même. Et donc, il ne peut pas se déposséder de lui-même pour connaître autre chose que lui-même. L'orgueilleux, sa philosophie de la connaissance, elle est ancienne. Vous ne connaissez jamais les choses, vous ne connaissez que votre représentation des choses. Vous ne connaissez que vous-même. Voilà. Donc, au fond, vous ne connaissez jamais le réel. Vous n'avez affaire qu'à des représentations relatives à vous-même. L'orgueilleux ne peut jamais se représenter le réel tel qu'il est. Sa représentation du monde ressemble toujours à un selfie. Lorsque l'orgueilleux regarde le monde, il faut toujours qu'il interpose son image, il mette son image de lui-même devant ce qu'il vous montre. Vous voyez ? Voilà. Donc, quand vous lisez des auteurs, des philosophes orgueilleux, des sociologues orgueilleux, un Bourdieu par exemple, qui se prenait pour Dieu, vous lisez pas simplement ce que Bourdieu a à dire sur les gens, mais sur lui-même parlant des gens dont il parle. Bourdieu s'intéresse beaucoup à lui-même quand il fait de la sociologie, c'est fascinant. Bourdieu, c'est son propre Dieu. Bon, il n'est pas le seul. On pourrait citer... c'est ce que j'aime dans l'histoire de la philosophie, c'est que vous avez quand même pas mal d'esprits assez gonflés d'eux-mêmes, qui font des selfies. Ils ne parlent jamais d'un sujet. Ils parlent toujours d'eux-mêmes parlant d'un sujet. Bon, alors venons-en à l'humilité. L'humilité est une vertu métaphysique, nous dit Chesterton, et pourrait-on dire mathématique. Un livre fort intéressant sur lequel nous avons peiné pendant notre enfance nous a enseigné qu'un point n'a ni surface ni volume. L'humilité est l'art voluptueux de nous réduire à un point, non pas à une chose petite ou grande, mais à une chose qui n'a aucune dimension, afin que toutes les créatures de l'univers nous paraissent ce qu'elles sont en réalité, incommensurables. Quand je suis humble, je vois ce qu'il y a de merveilleux en toute chose. Quand je suis humble, je suis étonné par la beauté des choses. Pour l'humble, tout est beau. Chesterton, dans son premier livre qui s'appelle Le Défenseur, a pris la défense de plein de choses. Il y a un article qui s'appelle Défense des bergères en porcelaine. Le truc kitsch. Chesterton l'admet. C'est très kitsch d'aimer les bergères en porcelaine. Mais si vous êtes humble, vous aimerez les bergères en porcelaine. Il faudrait réécrire une défense des vierges de Lourdes en plastique. Chesterton était capable d'écrire une défense des vierges de Lourdes en plastique, et ce serait très profondément chrétien, parce qu'au fond, quand on pense à tout l'amour qui a pu être investi dans la contemplation de vierges de Lourdes en plastique, eh bien on ne peut qu'être ému par cela. Et qu'est-ce qui fait qu'on méprise les vierges de Lourdes en plastique? C'est qu'on en a vu trop, parce qu'on a vu, des vierges romanes du XIIe siècle, etc. On a vu des madones de Raphaël, etc. Donc quand on voit la Vierge de Lourdes, on trouve ça minable. Mais si on n'a jamais vu les madones de Raphaël, si on n'a jamais pas la moindre idée de ce que peut être une vierge romane du XIIe siècle, etc., si dans toute sa vie on n'a jamais vu la moindre sculpture, imaginez que vous soyez un homme de Cro-Magnon débarquant suite à un événement magique dans notre société, vous vous retrouvez soudain face à une vierge de Lourdes. Vous êtes un peu comme le héros des dieux sont tombés sur la tête face à la canette de Coca-Cola. Vous voyez arriver, tomber du ciel une canette de Coca-Cola ou une vierge de Lourdes, alors vous vivez au milieu du désert du Kalahari, là vous êtes confronté à quelque chose d'étonnant, qui va vous transporter d'admiration. Et l'homme humble, justement, il admire toutes les choses que nous n'admirons pas. Si les arbres nous semblent grands et l'herbe petite, ce n'est qu'en raison de nos systèmes de mesure et de notre propre taille. Pour qui s'est libéré un instant de ces vaines mesures, le gazon est une forêt immense habitée par des dragons. Les pierres du chemin, d'immenses montagnes entassées les unes sur les autres. Les fleurs de pissenlit, de grands feux de joie illuminant le pays d'alentour, et les clochettes de bruyère, des comètes suspendues dans les cieux. Entre deux pieux d'une palissade, il y a de nouveaux et terribles paysages. Ici un désert, là une futaie miraculeuse dont les arbres se fleurissent de teintes du crépuscule. Là encore, une mer remplie de monstres et telle que Dante n'aurait osé la rêver. Voilà les visions de celui qui, semblable à l'enfant des contes de fées, ne craint pas de devenir petit. Mais le philosophe qui met sa foi dans la grandeur et dans l'ambition devient un géant de plus en plus grand, ou pour mieux dire, les étoiles deviennent de plus en plus petites à ses yeux. Les mondes lui paraissent insignifiants et la vie confuse et passionnée des humbles créatures n'existe pas plus pour lui que la vie des infusoires pour l'homme qui ne dispose pas d'un microscope. Il s'élève sans cesse à travers des éternités désolées. Il peut trouver de nouveaux systèmes et les oublier, découvrir de nouveaux univers et apprendre à les mépriser. Mais l'aspect véritable des êtres, pâquerette géante, fleur de pissenlit incendiant le ciel, grande odyssée des océans aux couleurs étranges et des arbres aux formes imprévues, poussière semblable aux ruines des anciens temples et duvets de chardon, pareil à des débris d'étoiles, toute cette vision colossale périra avec le dernier des humbles. Si vous connaissez un biologiste qui a étudié de très près les pissenlits, il vous expliquera qu'un pissenlit est infiniment complexe, que le plus complexe des ordinateurs humains. Et plus jamais après, vous ne regarderez les pissenlits de la même manière. Nous sommes ingrats et injustes envers les pissenlits. Il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est ça. La prochaine fois que vous verrez un pissenlit, regardez le pissenlit. Et rappelez-vous que si vous aviez une vision juste des choses, vous devriez tomber à genoux d'admiration devant le pissenlit. L'humilité, c'est ce qui renouvelle éternellement la terre et les étoiles. C'est l'humilité et non le devoir qui préserve les étoiles du mal impardonnable d'une démission fortuite. C'est grâce à l'humilité que les cieux éternels ont gardé pour nous leur fraîcheur et leur immensité. La malédiction qui précéda l'histoire nous a laissé à tous une prédisposition à nous lasser des merveilles, le péché originel. C'est le péché originel qui fait que nous ne voyons pas le monde comme au premier jour de la création. Si nous voyions le soleil pour la première fois, il nous paraîtrait le plus terrible et le plus beau des météores. Maintenant que nous le voyons pour la centième fois, nous l'appelons la lumière de tous les jours, selon le mot horrible et blasphématoire de Wordsworth. Nous sommes enclins à augmenter nos prétentions, nous sommes enclins à réclamer 6 soleils, à réclamer un soleil bleu, à réclamer un soleil vert. L'humilité nous replonge perpétuellement dans la ténèbre primitive. Là, toute la lumière est comme l'éclair, éblouissante et instantanée. Tant que nous ne comprenons pas ces ténèbres originaires, où nous n'avons ni vue ni espoir, nous ne pouvons louer d'un cœur sincère et candide le splendide sensualisme des choses. C'est-à-dire, tant que nous ne nous étonnons pas, nous ne sommes pas émerveillés que tout cela existe, nous ne pouvons rien voir, rien comprendre, rien aimer, rien admirer. Mais pour nous étonner, nous émerveiller de l'existence des choses, il faut que nous estimions que notre existence à nous ne va pas de soi. J'aurais pu ne pas exister. Le monde aurait pu ne pas exister. En tout cas, moi, j'aurais pu ne pas exister. Et le fait que le monde existe et que je puisse le contempler devrait m'étonner constamment. Car il n'est pas du tout évident que j'existe. Il ne va pas de soi que j'existe. J'existe, certes, mais j'aurais très bien pu ne pas exister. Et le fait que je ne m'émerveille pas de mon existence et de l'existence des choses, ça veut dire qu'implicitement, je me suis fait à l'idée que il est normal que j'existe. Ce qui est le comble de l'orgueil. Il ne va pas de soi que j'existe. Je ne nie pas le fait que j'existe. Hein. Je ne mets pas en doute, ce n'est pas un problème d'ordre cognitif. C'est un problème d'ordre métaphysique. Voilà. J'existe et je trouve que j'existe. J'y suis habitué. Tout se passe comme si j'aurais toujours dû exister. Ben non, mon gars. Non. J'aurais très bien pu ne pas exister. Et tout ce qui m'entoure aurait très bien pu ne pas exister. Et c'est pourquoi je dois m'émerveiller de l'existence de toute chose. Je lis simplement la conclusion. Pour l'homme humble et pour lui seul, le soleil est réellement le soleil. Pour l'homme humble et pour lui seul, la mer est réellement la mer. Quand il regarde les faces des passants dans la rue, il ne se rend pas seulement compte que les hommes vivent, il se rend compte avec un plaisir dramatique qu'ils ne sont pas morts. Je dois m'étonner de l'existence de chacun et c'est pourquoi chaque existence est absolument précieuse. Et vous voyez, ce rapport humble à soi-même, au monde, le fait de considérer que mon existence ne va pas de soi, elle ne m'appartient pas de plein droit, que l'existence de toute chose est étonnante, mystérieuse, eh bien cela doit me combler d'émerveillement. Je dois être admiratif, reconnaître qu'il y a de la grandeur en toute chose. Et voilà pourquoi cette éthique de l'humilité conduit à une esthétique de l'émerveillement. Si nous regardons tous les êtres tels qu'ils sont en profondeur, nous devrions nous émerveiller. Et cette éthique de l'humilité accompagnant une esthétique de l'émerveillement va nous conduire à une métaphysique que j'appelle la métaphysique elfique du buisson ardent. La métaphysique elfique comme les elfes, parce que c'est une métaphysique. Alors le buisson ardent, c'est Moïse, hein, et métaphysique elfique parce que Chesterton expose cette métaphysique dans un chapitre très important d'orthodoxie qui est vraiment au cœur de sa pensée, qui s'intitule « L'éthique au royaume des elfes ». Mais Chesterton a ceci de commun avec Spinoza, c'est que quand il annonce qu'il va parler d'éthique, en fait, il parle de métaphysique. Voilà. Il y a un point, c'est le seul, où Chesterton est à rapprocher de Spinoza, c'est celui-là. Il vous annonce qu'il parle d'éthique et il commence par faire de la métaphysique. Bon. Qu'est-ce que la métaphysique ? C'est l'étude de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que mener à bien une réflexion métaphysique, c'est commencer à dire pourquoi existe-t-il quelque chose ? Pourquoi est-ce que tout cela existe ? Et le point de départ de la métaphysique, c'est l'étonnement face à l'existence de tout ce qui existe. Il est étrange que j'existe, il est étrange que nous existions, il est étrange que toute chose existe, que chaque chose singulière existe. Et c'est cet étonnement qui est le point de départ de tout le questionnement métaphysique, pris en profondeur. Et c'est ce questionnement qui va être au cœur de l'interrogation de Chesterton. Alors, quelles sont les idées maîtresses de cette métaphysique que Chesterton dit avoir tiré des contes de fées ? Ah ! Ma première et dernière philosophie, celle en laquelle je crois avec une certitude inébranlable, je l'ai apprise dans ma chambre d'enfant. D'une manière générale, je l'ai apprise d'une nourrice, c'est-à-dire de la prêtresse solennelle désignée par les astres pour veiller sur la démocratie et sur la tradition. Je passe sur la démocratie et la tradition qui vont toujours ensemble pour Chesterton. C'est un démocrate traditionnaliste, ce qui en fait un homme de gauche, bien sûr. Mais voilà, même s'il est récupéré de nos jours par une certaine droite en France, Chesterton est un homme de gauche. Ce à quoi je croyais le plus alors, ce à quoi je crois le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les contes de fées. Ils me paraissent parfaitement sensés. Nous sommes chez Chesterton. D'accord ? Chesterton soutient un paradoxe. La chose la plus crédible, c'est ce qui est enseigné dans le conte de fées. Ce qui surprend, parce qu'on pourrait croire que les contes de fées, bon, c'est des contes, quoi. Voilà, c'est faux. Et non seulement c'est vrai, mais c'est sensé, c'est de bon sens. Le monde des fées, dit-il un peu plus loin, n'est autre que le monde ensoleillé du sens commun. Encore un autre paradoxe, c'est-à-dire que non seulement c'est de bon sens, mais c'est vraiment le monde du bon sens. Ah, alors ici, Chesterton ne va pas se contenter, comme le fera plus tard Bruno Bettelheim, de tirer quelques leçons de morale de quelques contes de fées. Il va essayer de montrer que, par lui-même, le conte de fées nous introduit dans une métaphysique. De manière générale, il y a une métaphysique à tirer du principe même des contes de fées en tant que contes de fées, à moins que Xavier Dufour m'interrompe. Je peux encore ? 10 minutes, très bien. J'avais tablé là-dessus. C'est-à-dire que M. Dufour m'a dit de finir à 9h10, j'en déduis qu'il voulait que je finisse à 9h15, et là vient de m'autoriser à aller jusqu'à 9h20. Ça, c'est de la politique, vous voyez. Bon. Alors, je tiens des contes de fées, dit Chesterton un peu plus loin, là je commente les passages en caractère gras sur les feuilles, voilà. Je tiens des contes de fées une certaine façon de regarder la vie que les simples faits ont depuis doucement justifiée. Et qu'est-ce que Chesterton veut dire ? Tout d'abord, dans les contes de fées, va nous dire Chesterton, nous sommes dans un monde qui est rationnel. Le conte de fées est rationnel. C'est-à-dire que les lois de la logique sont les mêmes que dans le monde réel. Les lois de la logique sont les mêmes. Et d'ailleurs, les enfants ont l'esprit parfaitement logique. Si vous adressez à des enfants, il n'y a pas plus logique que les enfants. Il n'y a que les adultes qui font des entorses à la logique. Les enfants ne comprennent pas ce qui n'est pas logique. Donc il faut que les contes de fées soient logiques puisqu'ils s'adressent d'abord à des enfants. Il existe dans les contes de fées des séquences ou des développements qui sont au vrai sens du mot raisonnables, rationnels pourrait-on même dire. Elles sont au vrai sens du mot nécessaires. Ainsi en est-il des enchaînements mathématiques et purement logiques. Nous autres, au pays des fées, nous qui sommes les plus raisonnables de toutes les créatures, nous admettons cette raison et cette nécessité. Les méchantes sœurs de Cendrillon sont plus méchantes qu'elles. C'est qu'il est... Oui, bon, alors, je passe, c'est pas le meilleur exemple. Si Jack est le fils d'un meunier, un meunier est le père de Jack. C'est de la logique. Voilà. La raison froide en a ainsi décrété du haut de son trône redoutable, et nous, au pays des fées, nous nous soumettons. Si les trois frères montent tous à cheval, cela fera 6 animaux et 18 jambes. Grand principe des contes de fées, les lois logiques et mathématiques sont parfaitement respectées. Nous sommes dans le rationnel. Beaucoup plus que dans le système de Hegel, par exemple. Bon. Cependant, quand je regardais par-dessus la haie des elfes et commençais à prendre conscience du monde naturel, j'observais une chose extraordinaire. Je notais que les hommes doctes au nez chaussé de lunettes parlaient des choses réelles qui se produisaient, l'aube, la mort et ainsi de suite, comme si elles étaient rationnelles et inéluctables. À les entendre, le fait que les arbres portent des fruits était tout aussi nécessaire que le fait que deux arbres plus un arbre fassent trois arbres. Ah non, c'est pas du tout aussi nécessaire. Or, ce n'est pas vrai. Il y a une énorme différence qu'apprend l'expérience du pays des fées, l'expérience de l'imagination. Il est impossible d'imaginer que 2 et 1 ne font pas 3, mais on peut facilement imaginer que des arbres ne portent pas de fruits. On peut les imaginer portant des chandeliers d'or ou des tigres suspendus par la queue, ce qui est assez plaisant, je veux dire. Voilà. Donc ici, Chesterton, en apparence, reprend une distinction classique depuis Hume entre les vérités de raison, les vérités logico-mathématiques, et les vérités de fait, factuelles, qui nous sont enseignés par l'expérience. En fait, ce n'est pas propre à Hume, hein, ça s'est dit bien avant. Ça se dit en particulier dans l'école thomiste, à laquelle Chesterton va se rallier plus tard. Chesterton est l'auteur d'un très bon livre sur Thomas d'Aquin qui s'appelle, dans sa traduction française, Saint Thomas du Créateur, qui est un excellent livre sur Thomas d'Aquin, très profond. Nous avons toujours respecté, dans nos contes de fées, dit Chesterton, cette étroite distinction entre la science des relations mentales, qui comporte réellement des lois, et la science des faits physiques, qui ne comporte aucune loi, mais seulement des répétitions mystérieuses. Là encore, on pourrait croire qu'on a plutôt affaire à Hume, mais... Bon, alors ceux qui ne connaissent pas Hume, vous occupez pas de ça, c'est pas grave. Nous croyons aux miracles physiques, mais non aux impossibilités mentales. Les miracles physiques, oui, pas de problème. Les impossibilités mentales, non. Or, c'est le scientiste moderne, le positiviste moderne, qui va faire comme si les lois physiques avaient le même type de nécessité que les lois rationnelles. Tout Spinoza roule là-dessus. Confusion entre la nécessité logique et la nécessité physique. Donc de grands philosophes ne font pas la distinction. Chesterton nous dit non, attendez, il y a une distinction fondamentale ici. Dans les pays des fées, au pays des fées, on respecte scrupuleusement les lois rationnelles. En revanche, les lois physiques peuvent être radicalement différentes. Et là, on pourrait rapprocher Chesterton, si vous voulez, de Leibniz. Il y a une multitude de mondes possibles. C'est-à-dire qui satisfont les lois de la logique. Et en cela, ils sont possibles. Et donc, dans les pays des fées, on explore différents mondes possibles. Il y a un monde où, sur les arbres qu'on appelle pommiers, poussent des pommes. Il y a un monde où des arbres tout à fait identiques donneront des chandeliers d'or. Et dans un autre monde, ces mêmes arbres donneront des tigres suspendus par la queue. Voilà. Il y a plusieurs mondes possibles. Dans le nôtre, il se trouve que ce qu'on appelle platement pommier produit des pommes, mais il y a des mondes avec des tigriers ou des chandeliers. Voilà. Tout cela, ce sont des mondes possibles. Voilà. Et cette distinction signifie que, au fond, notre monde réel est impossible, est un monde possible parmi d'autres mondes possibles. C'est une possibilité parmi d'autres. Ce qui fait ressortir le fait qu'il existe, mais son existence ne va pas de soi, puisque d'autres mondes auraient pu exister à la place. Vous voyez ? D'autres mondes auraient pu exister à la place du monde qui est nôtre. Et donc l'existence du monde, l'existence de chaque chose, se surajoute en quelque sorte aux choses mêmes. Les choses existent, certes, les choses réelles, du monde réel, mais elles auraient pu ne pas être. Il se serait pu qu'il existe autre chose. Et ça, c'est le point fondamental. Alors que les scientistes, matérialistes, contemporains de Chesterton disent au fond que il ne se pouvait pas que le monde tel qu'il existe n'existe à point. Cela existe de toute nécessité. Ben non. Ce que nous apprend l'expérience du pays des fées, c'est qu'il y a d'autres possibilités que ce monde. Et que, de fait, son existence est contingente. Cela existe, mais aurait pu ne pas exister. Si l'on nous demande Donc, dans le monde des faits, nous évitons le mot loi. Dans le monde des sciences, on l'affectionne particulièrement. Si l'on nous demande pourquoi les œufs se changent en oiseaux, pourquoi les fruits tombent en automne, faisons la réponse qu'aurait faite la marraine des contes de fées si Cendrillon lui avait demandé pourquoi les souris se changeraient en chevaux, pourquoi ses vêtements disparaîtraient au 12 coups de minuit. Au fond, c'est aussi étrange. Bon, évidemment, il est rare que les citrouilles se transforment en carrosse. Mais nous devrions nous étonner que la fleur du pommier devienne une pomme. Il est rare que les ours se transforment en princes charmants. Généralement, ce sont plutôt les princes charmants qui se transforment en ours. Je ne veux pas décourager les jeunes filles parce qu'après, elles voudront plus se marier. Bon, il est rare que les ours se transforment en princes charmants. Bon, mais nous devrions nous étonner de beaucoup d'autres phénomènes auxquels nous sommes seulement habitués. Chesterton, par ailleurs, dit fort justement que le rhinocéros est un animal extrêmement poétique. Il y a une poésie du rhinocéros qui rapproche le rhinocéros de Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Jeanne d'Arc et le rhinocéros ont un point commun. Lequel ? Rhinocéros, c'est un animal qui existe réellement, mais qui ressemble en tout point à un animal imaginaire. C'est-à-dire que si on ne savait pas que les rhinocéros existaient, si on nous décrivait un rhinocéros sans que nous sachions qu'un rhinocéros, les rhinocéros existent, nous devrions croire que les rhinocéros, ça n'existe pas. Ce sont des animaux de conte de fées. De même, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui existait réellement. Mais il y a plein de gens qui sont persuadés que Jeanne d'Arc, c'est une légende. Alors que tous les historiens vont vous dire que Jeanne d'Arc, c'est le personnage historique du Moyen-Âge le mieux connu scientifiquement. Mais régulièrement, vous avez des gens qui fantasment sur Jeanne d'Arc. Le réel est extrêmement étonnant. Le rhinocéros est étonnant. Jeanne d'Arc est étonnante. Mais même François Hollande est étonnant. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous devrions nous émerveiller du réel comme nous émerveillons des mondes imaginaires. Car c'est tout aussi étonnant. Si l'on nous demande pourquoi les œufs se changent en oiseaux, pourquoi les fruits tombent en automne, répondons, dit Chesterton, que c'est de la magie. Ce n'est pas une loi, puisque nous ne comprenons pas sa formule générale. Ce n'est pas une nécessité, le fait ne se renouvellera sans doute pas, mais nous n'avons aucun droit de dire qu'il se reproduira toujours. Pour décrire la nature, dit un peu plus loin Chesterton, les seuls mots qui aient jamais satisfait sont ceux-là même que l'on retrouve dans les contes de fées. Enchantement, sortilège, maléfice. Ils expriment l'arbitraire d'un fait et son mystère. Il y a du mystère. Le fait que les choses soient telles qu'elles sont est extrêmement étonnant. Le fait qu'elles existent est extrêmement étonnant. Et les enfants sont reconnaissants quand le Père Noël met des jouets ou des bonbons dans leurs souliers. Comment ne lui aurais-je pas été reconnaissant de m'avoir fait don de deux jambes miraculeuses ? Alors, il ne s'agit pas de Père Noël, il s'agit ici de Dieu. Nous remercions ceux qui nous offrent des cigares et des pantoufles pour notre anniversaire. Pourrais-je ne remercier personne de m'avoir fait don de la vie ? Il y a là un étonnement. Les choses existent, et c'est étonnant. Et le fait de découvrir qu'elles existent, si nous sommes humbles, seulement si nous sommes humbles, doit nous émerveiller. D'où une interrogation sur l'origine de cette existence. La réponse, c'est la création, c'est Dieu. Mais il faut passer par cette humilité pour avoir cet étonnement, s'étonner de l'existence des choses et voir en quoi l'affirmation d'un Dieu créateur est une réponse. Le monde me causa un choc, l'existence fut une surprise, mais une surprise agréable. Et ici, ce choc face à la prise de conscience de l'existence des choses, je le mettrai en parallèle avec un texte très célèbre de Jean-Paul Sartre dans La Nausée, où Jean-Paul Sartre dit qu'il prend conscience de l'existence des choses face à une racine. Sauf que chez Sartre, ça provoque le dégoût. Mais ça provoque le dégoût parce que l'existence ici est de trop. Mon existence, l'existence de la racine. Chesterton, ça provoque sa joie. Chesterton voit une racine, il exulte. C'est étonnant une racine. C'est beau une racine. Regardez les racines, contemplez les racines, quelle joie. Regardez les arbres. C'est beau un arbre, c'est extraordinaire un arbre. Nous sommes habitués à voir des arbres. Bon. Sartre, lui, ça le désole. Mais le fond, il y a dans les deux cas un étonnement face à l'existence, sauf que chez Chesterton, il y a l'humilité, pas chez Sartre. Les choses existent, mais elles sont trop parce que, au fond, l'existence des choses ne le réjouit pas. Elle ne le réjouit pas parce qu'elle ne l'émerveille pas. Elle ne l'émerveille pas parce qu'il n'y a pas lieu de s'émerveiller quand au fond, on se sent soi-même supérieur à toute chose. L'anthropocentrisme. Ça, c'est une philosophie qui est centrée sur la conscience humaine qui se regarde elle-même et s'estime comme supérieure au monde qu'elle s'approprie. Orgueil à l'état pur. Orgueil métaphysique. Il y a un passage étonnant de Chesterton dans ce chapitre conclusif où il cite avec éloge Robinson Crusoe et dit que le passage le plus poétique de ce roman c'est l'inventaire des objets que Robinson a préservés suite au naufrage. Vous avez une hache, un certain nombre de clous, là, une scie, etc. Et cet inventaire en lui-même est hautement émouvant, car chaque objet est unique, singulier, préservé du naufrage. La vie de Robinson en dépend. Chaque objet est irremplaçable, vous voyez ? Chaque objet est irremplaçable. Et du coup, chaque objet est merveilleux. Alors, cette métaphysique, en quoi est-ce qu'elle a rapport à l'humour ? Eh bien, face à cette profusion, face à cette immensité, je me sens petit et joyeux. Et je me sens joyeux parce que je me sens petit. Parce que l'existence de toute chose suscite une admiration qui me remplit de joie. Alors, que vient faire ici le rire ? Je vais aller vers ma conclusion. Et je vais presque respecter le temps qui m'a été imparti. Eh bien, le rire ici, c'est un rire d'exultation. C'est un rire d'exultation. C'est un rire de joie. Un rire de joie où, voyant venir à l'être toute chose, je prends conscience de leur fragilité. Prends conscience de leur fragilité et en même temps de leur immense beauté. Pour moi, la clé du rire, et peut-être que personne ne l'a pas tout à fait théorisée, elle est à chercher chez les primates. Ma théorie n'est pas originale, on trouve chez Desmond Morris, on doit la trouver avant chez Conrad Lorenz. Le rire primitif du primate, d'après ses éthologues, c'est l'attente d'un danger et la prise de conscience que le danger a été écarté. Donc, vous imaginez une troupe de primates, voilà, les rugbymen du 15 de France, qui sont au milieu de la jungle. Soudain, on entend un énorme bruit venant des broussailles dans la clairière où ils sont en train de jouer. Tout le monde est terrifié, on s'attend à voir surgir un énorme éléphant furieux, un rhinocéros furieux, je ne sais quoi. Et à ce moment-là, surgit une toute petite antilope fragile. Et là, le rire se libère. Le rire se libère, c'est-à-dire que le rire ici, ce rire primitif, serait justement la prise en conscience d'un danger écarté, ce qui fait que décontraction. Donc, face au danger, le stress, c'est montrer ses dents, qui est un signe d'agressivité très ancien, mais montrer ses dents devenu inutile, donc relâchement du diaphragme, qui suscite cette réaction physiologique qui est le rire quand le danger est écarté. C'est un rire de soulagement face à un danger. Mais on peut rire, vous voyez, de manière non égoïste. C'est-à-dire que, regardez des parents qui apprennent à leurs petits à marcher. C'est un exercice qui fait sourire, qui fait rire. Au moment où vous lâchez l'enfant, vous le voyez maladroitement, château branlant, disent les frères et sœurs. C'est château branlant. Et les parents rient quand ils voient à chaque pas que l'enfant menace de tomber, qu'il se rétablit, etc. Vous avez un sourire bienveillant qui est face au danger, de voir que le danger est résolu. Et c'est ce qui se passe quand un être vient à exister par lui-même en échappant à ceux qui lui ont donné la vie. Et ben, je crois que c'est ça ce qui correspond au rire chez le Créateur. Il voit que ces créatures existent, qu'elles commencent à exister par elles-mêmes, voyez, et elles lui échappent, elles ont leur propre existence et en même temps elles dépendent de lui. Il est tout près, il les maintient dans l'être, il les empêche de chuter, il les retient, etc. Et le rire du Christ qu'il garde secret, c'est ce rire où il a remporté la victoire sur la mort et il va laisser ses apôtres se prendre en charge, mais en les accompagnant. La victoire est assurée, mais eux-mêmes vont se dépêtrer comme un petit enfant qui apprend à marcher et ils sont un peu ridicules, un peu comme Saint-Pierre. Parce qu'il y a quelque chose d'amusant dans les évangiles, c'est que les apôtres ne sont jamais à la hauteur. Jamais, en particulier Saint-Pierre. Donc Jésus dit à Saint-Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux, etc. Voilà. Et aussitôt, la première chose que je fais Saint-Pierre, c'est il va refuser d'obéir au Christ quand le Christ dira qu'il faut porter sa croix. Et le Christ lui dit, arrière Satan. Donc. Jésus dit à Saint-Pierre, tu vas être le chef. Puis après, il lui dit, arrière Satan. Voyez. Jamais les apôtres ne sont à la hauteur. Et c'est ça qui est un peu ridicule chez les apôtres. J'aimerais vous faire une lecture comique des évangiles. Dans la lecture comique des évangiles, les apôtres, je vous assure, mais ça vaut le coup, il faut lire les évangiles, lisez pour de vrai. Les apôtres sont ridicules en permanence. Ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. Et ça, c'est drôle. Mais on peut en rire avec bienveillance. Comme les parents rient de leur petit enfant qui maladroitement essaie de marcher par lui-même. Et n'y arrive pas si bien. Ça me rappelle une histoire, mais je vous raconterai à part. Voilà. Bien, donc c'était la conclusion. Je vous remercie de votre attention.